Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous allons présenter également le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. La Russie apprécie la présence du président Joko Widodo à la conférence Russie-ASEAN. La Russie a l'engagement de faire la guerre contre le terrorisme. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a visité Laos du 27 au 28 janvier 2016. Le gouvernement indonésien surveille le virus de Zika au Brésil. Le consul général du Japon a inauguré le centre de formation du COMPOS à Medan. Dans le cadre de la communauté économique de l'ASEAN, 1850 travailleurs dans le secteur touristique de Sumatra Nord sont certifiés. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'ambassadeur russe à l'Indonésie, M. Mikhail Galuzin, a exprimé sa profonde appréciation pour la certitude de la présence du président Joko Widodo à la conférence Russie-ASEAN qui aura lieu à Sochi en Russie en mai. Selon lui, la présence du président Joko Widodo à cette conférence est très importante, notamment pour discuter des efforts de l'intensification de la coopération entre la Russie et les pays de l'ASEAN et pour intensifier les relations bilatérales entre la Russie et l'Indonésie. Je suis content d'écouter la nouvelle de mon collègue, l'ambassadeur de l'Indonésie à Moscou, M. Jauhari Oratmangun, qui a informé aux journalistes que le président Joko Widodo prendrait part et participer à la conférence Russie-ASEAN à Sochi en mai. J'apprécie la décision du président. Sa présence à cette conférence est très importante pour les relations bilatérales entre la Russie et l'Indonésie. Un autre, Mikhail Galuzin, a affirmé que la Russie considérait la zone de l'Asie et du Pacifique comme la zone importante d'être un partenaire de coopération. Par conséquent, l'un des sujets importants qui sera discuté à cette conférence est la possibilité d'une coopération entre l'Union économique eurasienne avec l'ASEAN et de l'Organisation de coopération de Shanghai. À cette réunion, les participants discuteront de la possibilité d'élargir la coopération de partenariat entre les trois parties. Les pays membres de l'Union économique eurasienne sont entre autres l'Arménie, le Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et la Russie. L'ambassadeur russe en Indonésie, Mikhail Galuzin, a exprimé sa volonté de la Russie d'aider l'Indonésie dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme qui existent dans le pays et dans la poursuite des auteurs qui fuient à l'étranger. Cela a été exprimé par Mikhail Galuzin dans un communiqué de presse jeudi à Jakarta. Auparavant, il a exprimé ses condoléances sur les attaques terroristes à Jakarta au début de janvier. Il a dit que l'incident a montré l'importance d'établir une coopération pour résoudre les problèmes de terrorisme international. Ces attaques pourraient se produire à n'importe où, dans tous les pays. Michael Galusian espère également que le gouvernement indonésien et la Russie peuvent faire des mesures pour améliorer la coopération bilatérale. Je voudrais exprimer la condoléance sur les attaques terroristes à Jakarta le 4 janvier dernier. Je voudrais également dire que le gouvernement russe a également exprimé sa sympathie au gouvernement indonésien. Je publie également sur notre site web la condoléance au peuple de l'Indonésie. Cet incident montre l'importance de la coopération dans divers domaines afin de lutter contre le terrorisme international qui est capable de mener une telle attaque à n'importe quel pays. Ce ne sont pas seulement dans un seul pays. Je suis sûr que notre gouvernement est prêt à coopérer avec l'Indonésie à lutter contre le terrorisme international. Nous espérons qu'il y aura des mesures concrètes pour renforcer notre coopération. Dans une conférence de presse devant les journalistes à sa résidence, l'ambassadeur russe en Indonésie a également déclaré que le gouvernement russe a annoncé une nouvelle politique étrangère pour l'année 2016. Selon lui, la dernière politique étrangère est toujours sur la base au principe de la paix diplomatique pour protéger les intérêts nationaux de la Russie. Selon Galusian, le paquet de la politique étrangère russe qui a été signé par le président Vladimir Poutine en décembre dernier continuera la politique étrangère de la Russie qui est ouverte, rationnelle, pragmatique et d'éviter la confrontation. Le ministre a fait une réunion bilatérale avec son homologue du Laos, Thongloun Sisulit, et le premier ministre du Laos, Thongsin Tamafong. Lors de la réunion bilatérale, il y a deux principales questions qui ont été discutées par les deux ministres des Affaires étrangères, telles que la coopération bilatérale dans le commerce et l'investissement, ainsi que la coopération de l'ASEAN. Il a été déclaré par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Kristiawan Nasir, aux médias à Jakarta, jeudi. Deux questions principales qui ont été discutées, bien sûr, la coopération bilatérale et la coopération de l'ASEAN. Dans le cadre de la coopération bilatérale, plusieurs questions bilatérales soulevées par Madame la ministre, entre autres la coopération économique liée au commerce et à l'investissement. Le montant de nos échanges en 2014, environ 55 millions de dollars américains. L'investissement indonésien en 2014, environ 55 millions de dollars américains. L'investissement indonésien au Laos, environ 1,7 millions de dollars américains. Un autre Armanata Kristiawan Nasir a déclaré que les produits principaux d'exportation de l'Indonésie au Laos sont le véhicule, l'automobile et le prêt-à-porter, tandis que les importations de marchandises en provenance du Laos à l'Indonésie, entre autres le café, le thé. Le ministre Retno Marsudi a également discuté de la coopération pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme ainsi que l'offre l'avion N219 au gouvernement laotien. Dans le domaine maritime, les deux pays coopèrent sous la forme du développement d'instruments juridiques pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, l'amélioration de la connectivité maritime et la mise en œuvre de la coopération maritime dans le cadre du sommet de l'Asie de l'Est, l'amélioration de la protection des citoyens des pays de l'ASEAN, entre autres de continuer la discussion de la formation des instruments juridiques pour la protection des droits des travailleurs migrants, l'amélioration de la coopération judiciaire à travers la mise en place du traité de l'ASEAN et renforcement de la coopération d'extradition. Vous écoutez toujours le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, a déclaré que le gouvernement indonésien, via l'ambassade d'Indonésie au Brésil, continuait à surveiller le développement du virus de Zika au Brésil. Selon lui, jusqu'à présent, il n'y a pas de rapport de citoyens indonésiens qui deviennent des victimes. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas émis d'appel de voyage lié au voyage à l'étranger, surtout au Brésil, et d'autres pays d'Amérique du Sud. Il a ajouté que le rapport de l'ambassade d'Indonésie sera devenu la considération pour déterminer les prochaines étapes. Le virus de Zika est lié aux lésions du cerveau des milliers de bébés au Brésil. Lundi, le 25 janvier, l'Organisation mondiale de la santé estime que ce virus se propagera à tous les pays des Amériques, sauf le Canada et le Chili. Le consulat général du Japon à Medan, Hirofumi Morikawa, a inauguré la construction du centre de formation de la production de compost et le développement de cliniques de santé dans le village de Labuhan Deli, le district Medan Mareland, au nord de Sumatra, le jeudi. Il souhaite que la disponibilité des deux installations puisse augmenter le mouvement de la gestion de déchets par les résidents et puisse améliorer la santé de la communauté. La construction de l'installation a été gérée par la Fondation Salsabila, comme la réalisation d'une aide de la subvention du gouvernement japonais de l'année budgétaire 2014 dans le programme de fonds d'assistance de la sécurité humanitaire. La signature du contrat de ce projet de 49 921 dollars américains a été effectuée le 12 mars 2015. Le centre de formation pour produire le compost vise à appliquer le concept de réduire, réutiliser et le recycler des déchets tout en utilisant les banques de déchets qui impliquent les enseignants qui sont experts dans leur domaine. Le ministre du Tourisme a donné des chances de certification pour 1850 travailleurs du secteur des hôtels et du tourisme dans le nord de Sumatra en 2016. C'est ce qu'a dit le président de l'Agence professionnelle de certification Hot Pari Medan, M. Denis Eswardana, à Medan le jeudi. Il a dit que la certification serait faite par LSP Hot Pari Medan pour obtenir la prolongation de licence. Selon Denis Eswardana, dans le programme de travail du ministère du Tourisme cette année, la certification peut atteindre 35 000 personnes dans 34 provinces. En outre, la formation de base des ressources humaines dans le secteur du tourisme atteint 17 600 personnes. Il a affirmé que l'industrie du tourisme dans le nord de Sumatra devrait profiter du quota de certification. La certification est très nécessaire dans la communauté économique de l'ASEAN. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Sergim Longden, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'Europe n'est pas aimable pour les réfugiés ». Il n'est pas si mal d'être réfugié, en particulier en provenance de la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Expulsés de leur village parce qu'ils ne veulent pas la guerre et ils ont accepté à contre-cœur par le pays de destination. Même certains pays européens étaient initialement prêts à accueillir les réfugiés. Maintenant, ces pays veulent les expulser. Cela se passe depuis la tragédie de la violence en Saint-Sylvestre à Cologne, en Allemagne, qui a frappé quelques filles locales. L'attaque aurait été menée par des gens qui sont considérés comme des migrants. Le gouvernement allemand, via une équipe du cabinet de la chancelière Angela Merkel, dirigée par le ministre de la Justice Heiko Maas et le ministre de l'Intérieur Thomas de Maizière, étudie le projet de loi qui permet la déportation des réfugiés ou des demandeurs d'asile qui commettent des crimes. Merkel, qu'auparavant à l'attitude ferme, accepte ouvertement pour les réfugiés, a commencé à changer après la pression de l'intérieur du pays. Avec le projet de loi, le gouvernement allemand pourrait expulser plus facilement les réfugiés et les demandeurs d'asile qui commettent des actes criminels comme la violence contre les forces de sécurité, les abus sexuels et le vol. L'attaque au début de Nouvel An a l'impact politique. Un sondage démontrait que l'appui pour le parti Alternative for Germany anti-immigrant a augmenté de 11% si bien qu'il a placé le troisième rang. L'Allemagne sert alors la loi migratoire car il y a beaucoup de réfugiés qui souhaitent entrer dans le pays et ont choisi plusieurs pays des Balkans comme un pays bénéficiaire de la déportation. Actuellement, ce n'est pas seulement l'Allemagne qui sert l'autorisation pour l'entrée des immigrants. Les pays scandinaves n'est plus également généreux envers les réfugiés. Le Parlement de Danemark, ce mardi 26 janvier, a organisé le vote qui est convenu de saisir les biens des réfugiés qui ont une valeur de plus de 1 400 $. Selon le gouvernement danois, ils imposent les mêmes règles à ces citoyens qui sont au chômage. Mais la législation a suscité des critiques de l'intérieur et de l'étranger, y compris de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ou UNHCR. Pendant ce temps, la Suède, selon le ministre de l'Intérieur, Anders Ygeman, le mercredi 27 janvier, a l'intention d'expulser des 80 000 immigrants qui sont arrivés l'année dernière et a rejeté leur demande. Cette mesure est annoncée au moment où l'Europe tente de surmonter la crise après des dizaines de milliers de réfugiés ont pris d'assaut l'Europe à travers les plages de la Grèce. Ceux qui viennent échappent à l'interminable conflit en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice de l'Union européenne se sont rencontrés lundi à Amsterdam pour une solution à la crise des réfugiés. Si l'Union européenne ne peut pas trouver immédiatement une solution, l'unité de l'Union européenne serait menacée. L'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et la Slovénie ont pressé la Grèce à renforcer ses frontières, ce qui éclaire la voix des électeurs dans certains pays européens comme l'Allemagne, la France et même les Pays-Bas ont tendance à soutenir les partis anti-immigrés. Si l'Europe n'avait plus accepté les réfugiés et le conflit au Moyen-Orient, non pas aussi une solution permanente, puis le rôle des pays islamiques est très important comme une solution. Ce qui est le problème, certains pays islamiques qui avaient été considérés comme économiquement forts tombent maintenant dans la crise financière en raison de la chute des prix du pétrole. Est-ce qu'ils peuvent encore être attendus pour aider à surmonter ces problèmes? Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
Bonsoir à tous, voici maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Nous vous présentons quelques informations. La première est sur la signature du protocole de Rio, le 29 janvier 1942. Le protocole de Rio, signé le 29 janvier 1942 entre le Pérou et l'Équateur, avait pour but de calmer les tensions entre les deux pays. Il est également connu sous le nom de protocole de paix, l'amitié et de délimitation. L'accord stipulait notamment que le Pérou devait retirer ses forces armées du territoire équatorien. Les tensions ont tout de même éclaté à nouveau entre les deux pays en 1981 et en 1995. Nous songeons aux événements du 29 janvier 1950, la mort du général Sudirman. Le général Sudirman est l'un des héros nationaux de l'Indonésie qui est très bien connu. Il est né à Purbalingga, Java Central, le 24 janvier 1916. En 1944, il rejoint à l'armée de défense du pays PETA, a été parrainé par le Japon, a servi comme commandant de bataillon à Banyumas. Après l'indépendance de l'Indonésie, dans une bataille avec les troupes japonaises, il a réussi à saisir l'armée de forces japonaises à Banyumas. Après l'armée de sécurité du peuple a été formée, il a ensuite été nommé comme commandant de la division 5 Banyumas avec le grade de colonel. Et à travers de la conférence d'armée de sécurité populaire le 2 novembre 1945, il a été élu comme commandant des forces armées de la République d'Indonésie. En raison de sa maladie, le 29 janvier 1950, le général Sudirman est mort. Le 10 décembre 1964, le gouvernement indonésien a déterminé le général Sudirman comme héros national. Grâce à ses services, son nom est immortalisé comme nom de la route, de l'université, de musées et de monuments. Chers amis, comme la fin de notre information, nous vous présentons un info sur des milliers de manifestants d'étudiants indonésiens le 29 janvier 2001. Des milliers de manifestants étudiants en Indonésie ont envahi l'Assemblée consultative du peuple et ont demandé au président Abdurrahman Wahid de démissionner en raison d'allégations de corruption. En l'an 2000, il y a eu plusieurs cas de corruption présumée, tels que Buloget et Brunegate. Buloget est le cas de détournement de fonds non budgétaires de l'agence logistique. Brunegate est le cas de la distribution de fonds de Sultan de Brunei qui a été remis à un homme d'affaires proche du président Wahid, à savoir Aryo Wawar. Le 29 janvier 2001, des milliers de manifestants se sont rassemblés à l'Assemblée consultative du peuple et ont demandé à Abdurrahman Wahid de démissionner sur l'accusation de corruption. Sous une grande pression, Abdurrahman Wahid a annoncé le transfert du pouvoir au vice-président Megawati Soekarnoputri. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre. Le gouvernement prépare le programme de la stabilité des prix alimentaires. Entré dans le premier mois de 2016, les prix alimentaires ont continué à augmenter. Bien que le gouvernement ait publié certaines politiques économiques qui visent à maintenir la croissance économique et la stabilité des prix. Lié à la flambée des prix, le mercredi 27 janvier, le président Joko Widodo a tenu une réunion limitée du cabinet pour résoudre la flambée forte des prix ces derniers temps. Lors de la réunion, le président Joko Widodo a dit que la hausse des prix devrait être vigilante parce que dans les 4 dernières années, les prix ont augmenté 70%. Le chef de l'État a également rappelé que jusqu'à présent, les prix des produits alimentaires en Indonésie est encore relativement élevé par rapport à certains autres pays asiatiques. Le président Joko Widodo a confirmé que la politique dans le domaine alimentaire visait à rendre les gens riches et réduire la pauvreté. Parce que le problème de la nourriture a fourni une contribution majeure à taux de pauvreté d'environ 73%. Par conséquent, diverses mesures doivent mettre en œuvre afin de réduire le prix des aliments tels que le riz, la viande bovine, le poulet, les oignons, les poivrons et les autres. Les mesures compréhensives d'améliorer la demande, l'offre, l'approvisionnement, la chaîne du commerce, les données du système et des informations sur l'agriculture devraient vraiment être valides. Après la réunion du cabinet, le secrétaire du cabinet, Pramono Anung, a dit Pour faire face à la volatilité des prix alimentaires, le gouvernement évaluera les mécanismes existants tels que la fiscalité. En outre, il a déclaré que le gouvernement prendra une politique pour couper la chaîne de vente de produits alimentaires, si bien que les prix alimentaires sont moins chers et stables chez la société. Pendant ce temps, le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmina Soutien, a déclaré que le gouvernement faisait toujours certains efforts pour les contrôler, mais sans baisser le revenu des agriculteurs. À cette fin, selon Darmina Soutien, le rôle de l'agence logistique Bulog devrait également être élargi, de sorte que la distribution de nourriture aux différentes régions peut être plus efficace et ne provoque pas la flambée des prix. Le ministre du Commerce, Thomas Lembon, a affirmé « La hausse des prix alimentaires, en particulier la viande, n'était pas seulement la responsabilité du ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture, mais toute l'équipe économique du président Joko Widodo, car il a une variété d'effets. » Selon lui, l'impact de la flambée des prix alimentaires est également ressenti par l'équipe du ministère de coordination pour les affaires politiques, juridiques et de sécurité, parce que l'augmentation des prix alimentaires a l'impact social et la sécurité. D'autre part, le ministre du Commerce, Thomas Lembon, mentionne que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a mis en place un décret présidentiel qui peut affiner et clarifier la réglementation de la gestion des réserves alimentaires. En outre, il a également préparé le décret présidentiel sur l'agence logistique qui sera élargi à 11 produits stratégiques incluant le riz, le maïs, le soja, etc. Tandis que le chef de la direction du Conseil national de l'horticulture, Benny Akusbini, a dit « Idéalement, le gouvernement a l'initiative et est l'avant-garde dans le développement des zones de fer-zère et de l'agriculture. Il permet l'Indonésie pour endiguer l'importation des produits agricoles et des plantations. Mais le gouvernement préserve et maintenir la réglementation des importations de produits agricoles et de plantations. » Serge Jutor, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
L'ambassadeur russe à l'Indonésie, M. Mikhail Galuzin, a exprimé sa profonde appréciation pour la certitude de la présence du président Joko Widodo à la conférence Russie-ASEAN qui aura lieu à Sochi en Russie en mai. Selon lui, la présence du président Joko Widodo à cette conférence est très importante, notamment pour discuter des efforts de l'intensification de la coopération entre la Russie et les pays de l'ASEAN et pour intensifier les relations bilatérales entre la Russie et l'Indonésie. Je suis content d'écouter la nouvelle de mon collègue, l'ambassadeur de l'Indonésie à Moscou, M. Jauhari Oratmangun, qui a informé aux journalistes que le président Joko Widodo prendrait part et participer à la conférence Russie-ASEAN à Sochi en mai. J'apprécie la décision du président. Sa présence à cette conférence est très importante pour les relations bilatérales entre la Russie et l'Indonésie. Un autre, Mikhail Galuzin, a affirmé que la Russie considérait la zone de l'Asie et du Pacifique comme la zone importante d'être un partenaire de coopération. Par conséquent, l'un des sujets importants qui sera discuté à cette conférence est la possibilité d'une coopération entre l'Union économique eurasienne avec l'ASEAN et de l'Organisation de coopération de Shanghai. À cette réunion, les participants discuteront de la possibilité d'élargir la coopération de partenariat entre les trois parties. Les pays membres de l'Union économique eurasienne sont entre autres l'Arménie, le Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et la Russie. L'ambassadeur russe en Indonésie, Mikhail Galuzin, a exprimé sa volonté de la Russie d'aider l'Indonésie dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme qui existent dans le pays et dans la poursuite des auteurs qui fuient à l'étranger. Cela a été exprimé par Mikhail Galuzin dans un communiqué de presse jeudi à Jakarta. Auparavant, il a exprimé ses condoléances sur les attaques terroristes à Jakarta au début de janvier. Il a dit que l'incident a montré l'importance d'établir une coopération pour résoudre les problèmes de terrorisme international. Ces attaques pourraient se produire à n'importe où, dans tous les pays. Michael Galusine espère également que le gouvernement indonésien et la Russie peuvent faire des mesures pour améliorer la coopération bilatérale. Je voudrais exprimer la condoléance sur les attaques terroristes à Jakarta le 4 janvier dernier. Je voudrais également dire que le gouvernement russe a également exprimé sa sympathie au gouvernement indonésien. Je publie également sur notre site web la condoléance au peuple de l'Indonésie. Cet incident montre l'importance de la coopération dans divers domaines afin de lutter contre le terrorisme international qui est capable de mener une telle attaque à n'importe quel pays. Ce ne sont pas seulement dans un seul pays. Je suis sûr que notre gouvernement est prêt à coopérer avec l'Indonésie à lutter contre le terrorisme international. Nous espérons qu'il y aura des mesures concrètes pour renforcer notre coopération. Dans une conférence de presse devant les journalistes à sa résidence, l'ambassadeur russe en Indonésie a également déclaré que le gouvernement russe a annoncé une nouvelle politique étrangère pour l'année 2016. Selon lui, la dernière politique étrangère est toujours sur la base au principe de la paix diplomatique pour protéger les intérêts nationaux de la Russie. Selon Galusine, le paquet de la politique étrangère russe qui a été signé par le président Vladimir Poutine en décembre dernier, continuera la politique étrangère de la Russie qui est ouverte, rationnelle, pragmatique et d'éviter la confrontation. Le ministre a fait une réunion bilatérale avec son homologue du Laos, Thongloun Sisulit, et le premier ministre du Laos, Thongsin Tamafong. Lors de la réunion bilatérale, il y a deux principales questions qui ont été discutées par les deux ministres des Affaires étrangères, telles que la coopération bilatérale dans le commerce et l'investissement, ainsi que la coopération de l'ASEAN. Il a été déclaré par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Kristiawan Nasir, aux médias à Jakarta, jeudi. Deux questions principales qui ont été discutées, bien sûr, la coopération bilatérale et la coopération de l'ASEAN. Dans le cadre de la coopération bilatérale, plusieurs questions bilatérales soulevées par Madame la ministre, entre autres la coopération économique liée au commerce et à l'investissement. Le montant de nos échanges en 2014, environ 55 millions de dollars américains. L'investissement indonésien en 2014, environ 55 millions de dollars américains. L'investissement indonésien au Laos, environ 1,7 million de dollars américains. Un autre Armanata Kristiawan Nasir a déclaré que les produits principaux d'exportation de l'Indonésie au Laos sont le véhicule, l'automobile et le prêt-à-porter, tandis que les importations de marchandises en provenance du Laos à l'Indonésie, entre autres le café, le thé. Le ministre Retno Marsudi a également discuté de la coopération pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme, ainsi que l'offre l'avion N-219 au gouvernement Lao Tiang. Dans le domaine maritime, les deux pays coopèrent sous la forme du développement d'instruments juridiques pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, l'amélioration de la connectivité maritime et la mise en œuvre de la coopération maritime dans le cadre du sommet de l'Asie de l'Est, l'amélioration de la protection des citoyens des pays de l'ASEAN, entre autres de continuer la discussion de la formation des instruments juridiques pour la protection des droits des travailleurs migrants, l'amélioration de la coopération judiciaire à travers la mise en place du traité de l'ASEAN et renforcement de la coopération d'extradition. Vous écoutez toujours le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Armanata Nasir, a déclaré que le gouvernement indonésien, via l'ambassade d'Indonésie au Brésil, continuait à surveiller le développement du virus de Zika au Brésil. Selon lui, jusqu'à présent, il n'y a pas de rapport des citoyens indonésiens qui deviennent les victimes. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas émis d'appel de voyage lié au voyage à l'étranger, surtout au Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud. Il a ajouté que le rapport de l'ambassade d'Indonésie sera devenu la considération pour déterminer les prochaines étapes. Le virus de Zika est lié aux lésions du cerveau des milliers de bébés au Brésil. Lundi, le 25 janvier, l'Organisation mondiale de la santé estime que ce virus se propagera à tous les pays des Amériques, sauf le Canada et le Chili. Le consulat général du Japon à Medan, Hirofumi Morikawa, a inauguré la construction du centre de formation de la production de compost et le développement de cliniques de santé dans le village de Labuhan Deli, le district Medan Marelan, au nord de Sumatra, le jeudi. Il souhaite que la disponibilité des deux installations puisse augmenter le mouvement de la gestion de déchets par les résidents et puisse améliorer la santé de la communauté. La construction de l'installation a été gérée par la Fondation Salsabila comme la réalisation d'une aide de la subvention du gouvernement japonais de l'année budgétaire 2014 dans le programme de fonds d'assistance de la sécurité humanitaire. La signature du contrat de ce projet de 49 921 dollars américains a été effectuée le 12 mars 2015. Le centre de formation pour produire le compost vise à appliquer le concept de réduire, réutiliser et le recycler des déchets tout en utilisant les banques de déchets qui impliquent les enseignants qui sont experts dans leur domaine. Le ministre du Tourisme a donné des chances de certification pour 1850 travailleurs du secteur des hôtels et du tourisme dans le nord de Sumatra en 2016. C'est ce qu'a dit le président de l'Agence professionnelle de certification Hotpari Medan, M. Denis Eswardana, à Medan le jeudi. Il a dit que la certification serait faite par LSP Hotpari Medan pour obtenir la prolongation de licence. Selon Denis Eswardana, dans le programme de travail du ministère du Tourisme cette année, la certification peut atteindre 35 000 personnes dans 34 provinces. En outre, la formation de base des ressources humaines dans le secteur du tourisme atteint 17 600 personnes. Il a affirmé que l'industrie du tourisme dans le nord de Sumatra devrait profiter du quota de certification. La certification est très nécessaire dans la communauté économique de l'ASEAN. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Vous écoutez toujours la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Pour la rubrique suivante, écoutez maintenant le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à Rembang, Java Centre, pour goûter lontong tuyuhan. Alors, soyez toujours avec nous. Vous pouvez suivre les émissions de la Voix de l'Indonésie, le service international de RRI, soit sur Angkor, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. Chers auditeurs, lontong est un aliment traditionnel indonésien à base de riz et enveloppé dans une feuille de bananier. et ensuite bouilli dans l'eau pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit cuit. L'onton est servi avec d'autres aliments tels que satay, le poulet au curry ou le curry de Sèvres. Cet aliment se trouve beaucoup dans de différentes régions en Indonésie, comme un aliment alternatif à remplacer le riz. Il n'est pas difficile de trouver cette alimentation dans toute l'Indonésie. De plus, chaque région a sa particularité. Par exemple, la région de Rembang a de la nourriture spéciale nommée lontong tuyuhan. Chers auditeurs, il est nommé lontong tuyuhan car il est originaire de Villas Tuyuhan, sous-communauté Pancur, la région de Rembang. Cet aliment se compose de morceaux de lontong et les plats d'accompagnement, à savoir le poulet étouffé en sauce. Les épices nécessaires pour cuisiner ce plat d'accompagnement sont l'oignon, l'aile, le gingembre, la noix de muscade, de coriandre, kencur ou kemferia galanga, la muscade et le curcuma. Afin d'obtenir le goût spécial du poulet, ajoutez le piment rouge et le gingembre et puis les sauter. Si bien que le goût épicé est très senti, combiné avec du lait épais de coco. Comme les exhausteurs d'arômes, ajoutez les feuilles de laurier et de l'herbe de citron, puis le lait de noix de coco, le sel et le poulet. Chers auditeurs, la recette de lontong tuyuhan a été héritée aux femmes de génération en génération dans le village tuyuhan. Ainsi, ce n'est pas étonnant si les hommes ne peuvent pas le cuire. D'abord, l'alimentation typique a été vendue autour du village. Mais grâce à l'augmentation des vendeurs qui vendent lontong tuyuhan, le gouvernement de Rembang a ensuite concentré les ventes de lontong tuyuhan au centre culinaire de lontong tuyuhan. L'emplacement est au bord de la route qui relie le village de sous-communauté Lasem et la ville sous-communauté Sulang, exactement dans le village tuyuhan. Chers auditeurs, au centre culinaire de lontong tuyuhan, il y a au moins 16 vendeurs qui vendent lontong tuyuhan. Lors de l'achat lontong tuyuhan, les vendeurs offrent généralement un morceau de poulet au curry qui utilise l'un des termes populaires là-bas comme gending, sempol, mentok et rongkong. Gending est le terme pour le haut de la cuisse de poulet. Sempol est le terme pour le cuisse inférieur de poulet. Mentok est pour la poitrine de poulet et rongkong pour le cou du poulet. Les mots qui sont nés depuis plusieurs décennies sont maintenant utilisés par les vendeurs quand ils offrent lontong tuyuhan. Par conséquent, vous pouvez commander que vous le souhaitez. En outre, vous pouvez également commander lontong tuyuhan avec ou sans le bouillon de poulet. Tout en profitant de cette alimentation, vous pourrez également profiter de l'atmosphère de l'endroit qui est si fraîche avec les arbres ombragés. Le panorama des rizières et des champs de canne à sucre ainsi que le mont Bougel à l'est en fait un endroit approprié pour prendre des photos. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Lontong Tuyuhan, l'alimentation typique de Rembang ». Demain, nous vous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité et à très bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Serge Jeter, bonsoir. Rencontrons-nous dans l'Indonésie en couleurs. Pour l'édition de ce soir, nous vous informons quelles mesures faites par le gouvernement provincial de Riau pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN. Serge Jeter, le fonctionnaire intérim du gouverneur de Riau, Arshad Juliani, a révélé qu'on a reconnu la gloire de Riau dans le secteur du pétrole et du gaz et de la plantation. Pour introduire plus son potentiel, en plus de pétrole et de gaz et de plantation, le gouvernement provincial de Riau a fait une nouvelle percée pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN, CEA. Cette nouvelle percée est d'élever le nom de Riau à travers le tourisme à la base de la culture. Parce que la CEA sera colorée par des dizaines de millions de personnes de l'ASEAN qui voyageront, que ce soit le sport et la culture. Avec le slogan « The Homeland of Melayu » ou « La patrie de Melayu », la province de Riau a commencé à se développer toutes les cultures malaises de divers secteurs tels que le site touristique, les arts et la culture et l'économie créative. L'étape initiale faite par le gouvernement provincial de Riau pour que le tourisme soit mieux connu pour les touristes domestiques et étrangers est de fonder un centre de promotion du tourisme intégré. Actuellement, le service du tourisme et de l'économie créative de Riau a établi un centre de nouvelle histoire, ou CBC. CBC est une source d'information pour tous les touristes étrangères et domestiques qui voulaient connaître les zones touristiques dans les résidences ou les villes de Riau. Dans ce CBC, on rencontrera l'excellence du tourisme à Riau. Serviteur, d'autres mesures faites par le gouvernement provincial de Riau est de résumer de nouveau l'histoire malais sous diverses formes comme une archive permanente et sera un outil de promotion de Riau à des pays étrangers pour que la culture malaise de Riau puisse réapparaître. Et la chose la plus importante est que la prochaine génération n'oublie pas l'histoire. Le gouvernement provincial de Riau veut également mettre en œuvre le slogan « La patrie de Melayu » ou « Homeland of Melayu » au public, en particulier les jeunes générations à travers l'éducation. Ainsi, les questions relatives à la culture interne peuvent être infiltrées dans toute la société à Riau. Parce que la question de la culture n'est pas seulement dans les regards, mais aussi les problèmes intérieurs. Comment toutes les communautés existantes ne remettent pas en question d'où ils venaient, mais elles ont fait le malais comme l'esprit dans toutes ces activités. Serviteur, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir avec le sujet Riau, the homeland of Melayu. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers amis, comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Aujourd'hui, vous allez écouter des chansons de Dangdut chantées par le duo Rizky Rido.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 925 kHz ou bien en streaming de www.voi.co.id. Vous pouvez également écouter nos émissions par application sur RRI Play. Pour cette édition, je présenterai des chansons de dangdut chantées par le duo Rizky Rido. On va écouter la première chanson intitulée « Belle ».
sangat merindu. Kita sedang berjalan tempat asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba sangat memikat hati. Bila sedang berjalan nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Bagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Sedang berjalan nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Agar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons de Dangdut chantées par le duo Rizky Rido. Dans un programme sur la télévision privée pour trouver des chanteurs de Dangdut talentueux, il y a un duo de chanteurs indonésiens qui s'appelle Rizky Rido. Bien qu'ils ne sont pas du top 5, ils sont de plus en plus populaires. Ils sont maintenant devenus la nouvelle idole pour les adolescents. Le duo chanteur de Dangdut est capable d'attirer l'attention des amateurs de musique de Dangdut, surtout les adolescents. Bon, on va écouter maintenant la deuxième chanson intitulée « Acceptable » chantée par Rizky Rido.
Juga itu kan ada balasannya. Sekarang ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga.
Dans notre émission, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.